Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions parlé de musique de film des années 20 et que j'avais partagé avec vous le sentiment que l'essentiel des musiques que l'on entend maintenant pour accompagner les films, notamment les films américains, avait été inventé pendant l'âge d'or du cinéma muet. Alors pourquoi ne pas commencer notre preuve par Z hebdomadaire par une musique de film ? Une musique de film que je n'ai encore jamais entendue la nuit sur France Info. Il s'agit en effet d'un extrait composé par Arthur Honegger pour le film Napoléon d'Abel Gance. La scène se situe au lycée militaire de Brienne. Les enfants jouent, rient, s'envoient des boules de neige et le petit Napoléon prend bien évidemment le commandement de sa classe. Nous écoutions La danse des enfants, un extrait de la musique qu'Arthur Honegger a composée pour le film Napoléon d'Abel Gance. La scène se situait donc au tout début du film, puisque c'est le petit Napoléon qui prend le commandement d'une fameuse bataille de boules de neige au lycée militaire de Brienne. Mais il faut peut-être que je vous dise un mot d'Arthur Honegger, compositeur suisse dont le visage, la stature imposante et la culture germanique expliquent sans doute que ses camarades du groupe des six l'appelaient Beethoven. Il a composé une bonne cinquantaine de musiques de films qu'il nommait de la musique dépendante, en opposition à sa production symphonique de musique pure qu'il aurait sans doute appelée de la musique indépendante. Mais si nous avons commencé notre émission par cette charmante petite danse des enfants, c'est bien sûr que nous sommes toujours dans notre série des enfantines, seconde enfantine donc, que je vous propose de poursuivre avec une pièce pour piano, une fantaisie et variation sur l'air d'eau claire de la lune signée de Clementi. Ah, ça sera l'occasion de réparer une grande injustice. Clementi, c'est le grand rival de Mozart. Virtuose et grand improvisateur, Clementi fut opposé à Mozart en 1780 lors d'une célèbre battle à la cour de Joseph II à Vienne. De 4 ans le cadet de Wolfgang, Clementi fut cependant très affecté quand il apprit à la fin de sa vie les mots blessants que Mozart avait eus à son sujet. Et pourtant Beethoven préférait la musique de piano de Clementi à celle de Mozart. De plus, Clementi avait plusieurs cordes à son arc. Pianiste, compositeur, professeur, il crée également en 1802 une société de facture de piano ainsi qu'une maison d'édition de partitions qui remporte toutes deux un énorme succès dans toute l'Europe musicale du début du 19e siècle. Il peut donc s'auto-publier et jouer sa musique sur ses propres pianos. De sa composition, nous écoutons donc maintenant la fantaisie et variation sur l'air d'eau claire de la lune. Et vous remarquerez la grande introduction de plus de 2 minutes, en mode mineur, mystérieuse, modulante et pleine d'imagination. Elle donne une bonne idée de la manière dont Clémenti devait improviser. Après celle-ci, nous retrouvons notre thème favori, qui donne lieu à une savoureuse série de variations qui valent bien à mon sens celles de Mozart sur « À vous dirai-je, maman ». Des variations contrastées, tour à tour pensives, brillantes, romantiques, contrapuntiques et passionnées.
Thank you.
Nous écoutions les variations sur Au clair de la lune de Clementi, interprétées par le pianiste anglais Howard Shelley, l'un des plus grands spécialistes de Clementi. Puisque nous en sommes au clair de lune, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre Le clair de lune de Debussy, sa pièce la plus connue, qu'il compose alors qu'il n'a que 28 ans. Et figurez-vous que c'est grâce au cinéma muet que cette pièce est rapidement devenue un tube. Dès qu'il y avait un paysage au clair de lune, on avait le droit au clair de lune de Debussy. Une musique paysage d'un calme feutré et d'une incroyable beauté. Un tube de la musique classique, vous disais-je, transcrit, utilisé et réutilisé au cinéma, dans la publicité et pour un nombre impressionnant de sites internet et d'attentes téléphoniques. Et pourtant, on a beau l'avoir entendu et réentendu, dès les premières notes, le miracle opère toujours. On est saisi et l'on écoute bouche bée jusqu'à la fin de la pièce, le temps se suspendre et nous envelopper de douceur. Nous écoutions le clair de lune de Debussy dans la merveilleuse orchestration qu'en a fait André Caplet. L'orchestre d'Ulster était dirigé par Yann Pascal Tortelier, un excellent chef d'orchestre, fils du grand violoncelliste légendaire Paul Tortelier. Et maintenant, je vous propose, si vous en êtes d'accord, une petite expérience. Celle de réécouter le clair de lune, mais dans sa version d'origine, la version pour piano. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai beau adorer cette orchestration d'André Caplet, je reste malgré tout attaché à la version d'origine pour piano. Le clair de lune, pour moi, c'est avant tout une confidence, quelque chose d'intime, quelque chose qui se passe entre le piano et soi, là, dans sa chambre, dans le secret de son cœur. Et pour l'interprétation, vous pensez bien que je n'ai eu que l'embarras du choix. Plusieurs centaines de versions disponibles de ce clair de lune dans la véritable caverne d'Ali Baba, qui est la discothèque de Radio France. J'ai fini par me décider pour celle de Pascal Roger, parce qu'il fait parler la mélodie comme dans un nocturne de Chopin, compositeur qu'affectionnait particulièrement Debussy. Le premier titre donné par Debussy à sa pièce n'était-il pas « Promenade sentimentale » ?
Thank you.
De quelques années son cadet, Ravel semble disputer à Debussy le monopole de l'enfance. Il écrit en 1925 « L'enfant et les sortilèges », une fantaisie lyrique sur un livret de Colette. Dans la scène que nous allons entendre, l'enfant est persécuté par l'arithmétique, personnifié par un petit vieillard bossu et barbu, coiffé d'un pied et armé d'une équerre. Celui-ci l'assomme d'additions fausses et de bribes de problèmes que l'enfant est bien incapable de résoudre. Deux robinets coulent dans un réservoir, deux trains omnibus quittent une gare à 20 minutes d'intervalle, une paysanne porte tous ses œufs au marché, un marchand d'étoffes a vendu 6 mètres de drap, le cœur des chiffres tourne autour de l'enfant de plus en plus vite. Cauchemar.
Mon Dieu, c'est l'arithmétique.
Tic, tic, tic.
L'arithmétique et le cœur des chiffres persécutant l'enfant, c'était un extrait de L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel et le petit vieillard était interprété par Michel Sénéchal, génial ténor de caractère, une voix nasale peu vibrée, pas forcément belle, mais très typée et utilisée la plupart du temps pour des rôles comiques. Toujours du côté de l'enfance, Ravel a également mis en musique en 1910, mais sans parole cette fois, l'histoire du petit pousset de Perrault. Le petit pousset a été abandonné par ses parents. Il gémit doucement avec son hautbois, tandis que les cordes reprennent inlassablement leurs gammes entières. Malheureusement, les oiseaux de l'orchestre, je veux dire les flûtes et les clarinettes, ont mangé les miettes de pain. L'enfant est perdu. Il ne sait plus où aller. Il est triste. Il est inquiet.
Thank you.
Nous écoutions la version orchestrale du Petit Poucet de Maurice Ravel, un extrait de Mamerloi. L'orchestre de la Suisse romande était dirigé par Armin Jordan, le père de Philippe Jordan, l'actuel directeur musical de l'Opéra de Paris. Alors l'un des grands problèmes de la mélodie classique, c'est qu'il n'est pas toujours facile de comprendre les paroles, surtout quand le chanteur n'est pas français. C'est le cas de la flamboyante soprano américaine Cathy Berberian. Mais je suis sûr que vous reconnaîtrez sans peine les mots de l'univers de bébé. Maman, dodo, caca, papa, nanan, bobo, un insupportable bébé. La chanson du bébé, un extrait des Péchés de vieillesse de Rossini, chanté par la soprano Cathy Berberian, accompagné au piano par Bruno Canino. Bébé est souvent insupportable, mais bébé peut aussi être sage, il peut même être divin. Lors de sa première audition, en 1888, à l'église de la Madeleine, à Paris, le pied Jésus du Requiem de Fauré, à l'époque on prononçait pied Jésus, était chanté par le jeune Louis Aubert. Un garçon d'à peine 11 ans, qui deviendra plus tard un pianiste et compositeur remarqué, après avoir étudié la composition avec Fauré au Conservatoire de Paris. Nous écoutons maintenant, suspendu entre ciel et terre, la voix angélique de Jonathan Band nous interpréter le pied Jésus du Requiem de Fauré.
Thank you.
le petit Jonathan Bound interprétait le Pieyezu du Requiem de Forêt, accompagné par l'orchestre de l'Académie de Saint-Martin-in-the-Fields sous la direction de George Guest. Alors, convaincu par la beauté des voix d'enfants ? Tenez, en voici trois particulièrement harmonieuses. Je pense aux trois jeunes garçons de la flûte enchantée de Mozart. Parfois appelés génies, ils sont en quelque sorte les pendants solaires des trois dames de la nuit. Les voici apportant avec une énigmatique douceur la fameuse flûte enchantée au prince égyptien Tamino. Un extrait du second acte de la flûte enchantée de Mozart par les London Classical Players sous la direction de Sir Roger Norrington. Oui, je dis bien Roger et non Roger, car Norrington, un jeune chef d'orchestre dynamique et joyeux de 82 ans, tient à ce que l'on prononce son prénom à la française. Mais il est temps maintenant d'en arriver aux berceuses. Pas d'émission sur l'enfance sans berceuses, vous l'imaginez bien, je vous en propose deux. Enchaîné, mais oui, c'est une petite expérience. Comme ça, je serai vraiment sûr que je vous ai plongé dans le sommeil le plus doux et le plus voluptueux. Tout d'abord, l'ensorcelante Nana de Manuel de Falla, un extrait de ses 7 chansons populaires espagnoles. Puis un des thèmes les plus connus de la musique classique et même le premier morceau classique que l'on connaît pour beaucoup d'entre nous. Il s'agit d'une chanson écrite par Brahms pour la naissance de l'enfant d'une amie en mai 68. Oui, enfin, mai 68, 1868, bien sûr, pas 1968. Bonsoir, bonne nuit, mets-toi sous les couvertures et les roses. Si les paroles sont oubliées, la musique reste. C'est que le coucher est un moment particulièrement redouté par l'enfant. Il faut se séparer de sa mère et du monde. Alors, rappelez-vous, le mobile apaisant qui tournait doucement au-dessus de votre berceau.
Woo!
Nous écoutions à la suite la berceuse Nana de Manuel de Falla, interprétée par la capiteuse soprano américaine Renée Fleming, et la berceuse de Brahms, interprétée par la légendaire soprano allemande Rita Streich. Il faut dire que je jouais sur du velours, puisque les deux berceuses étaient toutes deux transposées dans la même tonalité de fa dièse ou de sol bémol, puisqu'en musique, c'est la même note. Et maintenant, restons un petit peu avec Rita Streich. C'est qu'en l'écoutant chanter la célèbre berceuse en même temps que vous, tout d'un coup, m'est revenu un souvenir. Le souvenir de son dernier récital parisien au Théâtre des Champs-Élysées. Elle était accompagnée par le grand pianiste Jean-François Esser. Je n'ai plus aucune mémoire de ce qu'elle a chanté, mais je me souviens de la fin du concert. Premier bis, deuxième bis. Et comme troisième bis, troisième et dernier bis, Rita Streich, dans le silence, chantant cette simple et naïve berceuse de Brahms. Elle nous disait « Guten Abend »,« Guten Nacht », c'était le texte de la berceuse, c'était aussi sans doute une manière de nous dire au revoir. Et je me rappelle du silence incroyable du Théâtre des Champs-Élysées au grand complet, suspendu au souffle magique de Rita Streich. J'ai tout oublié de ce concert, sauf ce moment magique. Nous allons la retrouver maintenant dans Frère Jacques, et c'est très inattendu, Frère Jacques en français, non pas Bruder Jacob, mais bien Frère Jacques, dans un arrangement étonnant pour voix, chœur et orchestre, qui classicise la célèbre comptine. Moi, j'adore. Existe-t-il une auditrice, un auditeur de France Inter qui n'ait pas reconnu Frère Jacques ? La célèbre comptine était en tout cas interprétée par la soprano Rita Streich. Nous voici installés au pays des comptines, un pays merveilleux où quelques notes, aussi simples, aussi naïves soient-elles, suffisent à nous faire voyager, suffisent à nous faire sourire. Alors, une basse chaloupée ? Un soupçon de nostalgie ? Je suis sûr que vous reconnaîtrez sans peine les quatre comptines qui peuplent l'improvisation de la semaine. Thank you. L'improvisation de la semaine était dédiée à Jean-Pierre Loisil. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Seigre. À la technique, Delphine Baudet. À la semaine prochaine.